Chers frères et sœurs, c'est en écho à ces mots que nous avons entendus dans l'épître de Paul aux Galates que j'ai choisi un autre contexte pour les mêmes mots, cette fois dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, je vais vous lire au chapitre 12, les versets 12 à 27. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous, pour former un seul corps, été baptisés. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était toute ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons du plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, frères et sœurs, il est arrivé le temps où vous allez enfin pouvoir chanter le cantique 204. Je sais que vous regrettez qu'il n'y ait que deux strophes à ce cantique. Seigneur, dirige et sanctifie, mais nous ne les chanterons pas plusieurs fois. Cantique 204, les strophes 1 et 2.
Thank you.
Éternel, notre Dieu, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton Évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton Esprit, nous soyons prêts à répondre à ton appel, comme de véritables enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, ce passage de l'apôtre Paul s'articule autour de l'image du corps. Et nous constatons à quel point le corps a souvent été malmené par bien des traditions chrétiennes. Qu'il s'agisse des mortifications que certains s'infligent pour punir un corps considéré comme l'instrument du péché, ou qu'il s'agisse de privations que d'autres s'imposent, privations d'ordre alimentaire, privations d'ordre affectif, eh bien, cela pour se libérer d'un corps qui serait une sorte de frein à un plein épanouissement de l'être, à un plein épanouissement de l'esprit. Force est de constater que bien souvent, le corps a été considéré comme une sorte de prison dont il fallait s'échapper. Cela parce que le corps a parfois été perçu comme bien inférieur à l'âme, l'âme qui méritait seule toute notre considération. Il me semble que cette approche assez dédaigneuse du corps n'est pas véritablement biblique. Nous le voyons bien avec ce passage de l'épître de Paul aux Corinthiens, passage dans lequel Paul, en utilisant cette image du corps pour exprimer sa compréhension de l'humanité, exprime que le corps est pour lui quelque chose de tout à fait honorable. Il pose un regard positif sur le corps, puisqu'il en fait la métaphore de ce grand corps christique, de cette grande entité que nous sommes, que nous formons les uns avec les autres. Ce regard positif s'inscrit dans le droit fil du regard que Jésus posait lui-même sur ses contemporains. Jésus qui prenait soin des corps de ceux qu'il rencontrait. Jésus qui ne s'adressait pas simplement à l'intelligence. Jésus qui s'adressait à l'être intégrale de ceux qu'il rencontrait. Jésus qui prodiguait des soins corporels lorsque cela était nécessaire. Jésus qui touchait, Jésus qui palpait, Jésus qui tendait la main, Jésus qui ne refusait pas d'être touché, qui ne refusait pas d'être embaumé de son vivant. Jésus qui s'adressait à tous, aussi bien ceux qui étaient bien portants, mais parfois avec une sorte de prédilection pour ceux qui n'allaient pas bien, ceux qui souffraient d'une infirmité, ceux qui souffraient d'un moins bien-être. Il s'adressait sans hésitation à ceux qui ne clochaient pas, à ceux qui clochaient, pardon, dans le corps de ceux qu'il rencontrait. Cela, l'armée du salut l'a particulièrement bien reçu. L'armée du salut qui dit qu'on ne peut pas parler du salut sans offrir également de la soupe et du savon. Autrement dit, sans prendre soin véritablement du corps. Ce regard éminemment positif posé sur le corps humain, sur la chair, trouve sa source dans la vision biblique de l'homme qui, à proprement parler, n'a pas un corps, ne possède pas un corps, mais est un corps. Quant à la distinction corps-âme, elle n'est pas à proprement parler matérielle dans la Bible. Oui, les deux mots existent, les deux mots désignent deux réalités différentes, mais l'âme, ce n'est pas la partie noble de l'être humain, emprisonnée dans un corps de chair qui ne serait qu'un pis-aller. L'homme est un corps charnel, et c'est heureux, et il est question de l'âme toutes les fois où l'homme charnel se tourne vers Dieu. Lorsqu'il vit devant Dieu, l'âme, dans la perspective biblique, c'est cette capacité du vivant à se tenir devant Dieu et non une zone précieuse qu'un jour nous pourrions mettre au bout du scalpel. Ce regard positif sur le corps, sur la chair, se retrouve dans les grandes expressions de la foi chrétienne, que sont Noël, l'autre nom de l'incarnation, le fait que l'Évangile prenne corps, prenne chair dans l'histoire des hommes, et puis Pâques. Pâques qui annonce la résurrection de la chair, une expression peut-être un peu curieuse que certains redoutent, refusent, mais que l'on peut prendre comme l'image du fait que l'attention que Dieu nous porte n'est pas une attention limitée à une partie de notre être, mais une attention qui nous englobe entièrement, car Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne, aussi bien le spirituel que le matériel, et que notre vie quotidienne, notre vie matérielle, ce que nous faisons au jour le jour, préoccupe Dieu également, et que cet aspect de notre vie, il le prend également en charge. Dieu ne s'intéresse pas simplement à nos idées, à nos belles convictions, à notre foi. Il s'intéresse à nous entièrement. Ce regard positif sur le corps, c'est donc un regard positif sur toute notre vie, toute notre existence. Les sentiments, les sensations, notre sensibilité, cela est tout aussi important pour Dieu que nos positions théologiques, que nos pratiques cultuelles. Ce que nous sommes, en dehors du dimanche matin, intéresse Dieu également. Cela, l'apôtre Paul l'exprime au verset 26 en parlant de la souffrance et de la joie. Nous pourrions considérer que cela est très secondaire dans la vie chrétienne. Au contraire, Paul les met en lumière car ils font partie intégrante de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas dissociables, nous ne sommes pas fragmentables, nous sommes un être entier au regard de Dieu. Ni Paul, ni les autres auteurs bibliques n'ont une vision éthérée de la vie humaine. Il est bien plutôt question de faire en sorte que nos rêves, nos projets prennent corps, s'incarnent, car c'est ainsi et ainsi seulement que nous pouvons faire histoire. Alors il me semble que si une part de la tradition chrétienne s'est méfiée de cette valorisation du corps, c'est parce qu'un tel regard positif sur le corps n'est pas toujours sans risque. En effet, si nous revalorisons le corps, nous courons le risque d'en faire une sorte de produit fini qui se suffirait à lui-même. Et nous le voyons régulièrement, nous voyons à quel point la valorisation du corps, de la chair, peut conduire certains à un culte du corps, à une course effrénée vers un corps parfait. Et le culte du corps s'accompagne bien souvent de l'illusion, du rêve, de l'éternelle jeunesse. Ce culte du corps, ce rêve de l'éternelle jeunesse peut rapidement se transformer en une sorte d'obsession intérieure. Celui qui s'adonne à ce genre de culte a tendance à se replier, à se retourner sur lui-même. Et au fond, la seule chose qui finit par compter, c'est soi et rien d'autre. Rapidement, l'adorateur du corps parfait franchit le cap de l'individualisme. Et nous le voyons bien, cet individualisme n'est pas forcément quelque chose de recherché, mais parfois quelque chose de subi. C'est vrai pour ceux qui souffrent d'anorexie et qui s'enferment dans leur terrible quête d'une ligne qu'ils pensent idéale. C'est vrai aussi pour ceux qui pensent qu'ils doivent entretenir leur corps et qui professent qu'il n'y a point de salut en dehors du bodybuildisme ou de l'interventionnisme chirurgical aigu. Voilà la raison pour laquelle il ne s'agit pas de survaloriser le corps au point de se noyer dans le narcissisme. Mais du point de vue biblique, il s'agit de considérer le corps, de ne pas le mésestimer, car le corps est ce qui nous permet d'être en relation avec notre environnement, à commencer par les autres êtres humains, évidemment. Si je n'étais qu'une idée, aussi belle soit-elle, vous n'en auriez aucune connaissance s'il n'y avait pas un corps pour la faire résonner. Si vous étiez un sentiment noble, valeureux, chevaleresque, nul n'en aurait connaissance s'il n'y avait un corps autour pour le faire valoir. Nous sommes corps, intégralement, pour établir des relations avec ceux qui sont autour de nous. Autrement dit, pour être une personne, véritablement. La personne étant un individu en relation avec les autres. Si dans l'Esprit de Dieu, si dans l'espérance de Dieu, il n'était pas question que nous soyons en relation les uns avec les autres, effectivement, notre corps ne nous servirait à rien et nous pourrions le mépriser sans autre forme de procès. Et voyez-vous, il apparaît que Dieu ne nous envisage pas comme des îlots, n'ayant rien à faire les uns les autres. Vivant leur vie, oui, peut-être en sachant qu'il y a d'autres existences autour, mais sans s'en préoccuper le moins du monde. Dieu nous espère à tout le moins archipel, formant un ensemble interdépendant. Dieu nous espère prenant soin les uns des autres, liés par une communauté de vie comme le sont les membres d'un corps, les membres d'un même corps. Oui, ce que Dieu espère, c'est que nous fassions corps, véritablement, à la manière d'un corps humain peut-être, à la manière d'un corps social, à la manière d'un corps ecclésiastique, à la manière de tous les corps que vous pouvez envisager. Faire corps, c'est-à-dire éprouver un sentiment de solidarité les uns envers les autres. En développant cette image du corps dont nous sommes les membres, Paul présente un portrait de l'homme qui ne saurait vivre dans l'indifférence de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il est chair, l'homme est en interaction permanente et vit au rythme de son entourage, des autres membres de ce même corps. L'homme fait corps avec les autres corps, ne serait-ce que par les vibrations, au moins par les vibrations. L'homme fait corps avec eux aussi par une solidarité, celle que Paul met en exergue, le fait que lorsqu'un membre souffre, l'ensemble souffre. Lorsque le sacristain de l'oratoire voit que le pasteur fait tomber ses feuillets depuis la chaire, il ne peut faire autrement qu'accourir à son secours et les lui remonter. Dans son fameux discours de 1963, prononcé sur les marches du mémorial Lincoln à Washington, le pasteur Martin Luther King disait cela en affirmant « Nous ne saurons être satisfaits tant qu'un noir en Mississippi n'aura pas le droit de voter. Nul ne saurait être libre tant qu'un seul ne l'est pas. » En d'autres termes. Si l'Éternel nous invite à faire corps, c'est pour nous soutenir les uns les autres, pour que les plus faibles ne désespèrent pas de leur condition, de leur situation, mais qu'ils trouvent auprès des plus forts l'aide dont ils ont besoin, à la manière des membres que l'on peut estimer moins honorables du corps et qui pourtant sont entourés d'honneur, dit Paul. Ou les membres les moins décents qui sont traités avec le plus de décence, continue Paul. Si Karl Marx disait que l'on mesure la force d'une chaîne à son maillon le plus faible, l'apôtre Paul avance que la grandeur d'une société se mesure aux soins qu'elle porte à ses éléments les plus faibles. Ici, le fort ne voit pas dans le faible un être nuisible, mais l'occasion pour lui de développer une énergie plus grande, une créativité plus grande pour apporter aux faibles les soins qui lui sont nécessaires. Et en rapportant cette conviction à l'acte du baptême, Paul proclame que notre condition initiale, juif, grec, homme, femme, esclave, bien portant, démuni, hispanophone, aristocrate, alcoolique, gueule cassée, paroissien de l'oratoire, non paroissien d'ailleurs, est sublimé. Notre condition initiale est sublimée par le fait que nous valons bien plus que cela, grâce aux autres, grâce à ceux auxquels nous sommes reliés, du fait même de notre appartenance à ce corps divin, à ce corps du Christ. Le baptême nous révèle que nous valons mieux que ce que nos parents nous offrent, même si déjà les parents mêlent deux sensibilités différentes, deux cultures, deux traditions différentes. Le fait que nous soyons raccrochés à une communauté spirituelle, à une famille qui élargit la famille biologique, dit que nous valons bien plus que nos petites molécules, aussi adorables soient-elles. Le baptême nous révèle que nous sommes tous reliés les uns aux autres, que nous sommes tous en interaction permanente et que cette interaction nous porte. Cette vision de l'homme permet donc de fonder les prémices d'une morale. Car ce que je fais aux uns, évidemment, c'est à moi-même que je le fais. Ou, pour le dire avec les mots de Dietrich Bonhoeffer, blesser quelqu'un revient à défigurer le Christ. Voilà donc une première vision de la solidarité que développe Paul. C'est une solidarité d'interdépendance, une solidarité de l'entraide. Nous sommes reliés les uns aux autres, nous avons tous le même Père, et c'est la raison pour laquelle les plus faibles sont aidés par les plus forts. Mais il n'y a pas que cela. Nous pouvons aussi noter qu'il ne s'agit pas d'être simplement reliés les uns aux autres, mais d'avoir une place spécifique dans ce réseau. En écrivant que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu, Paul nous rend attentifs au fait que Dieu n'en finit donc pas de créer le monde dans les termes même du début de la Genèse. Donnons à chacun une place spécifique et un sens à son existence. Et il ne s'agit rien de moins que de ce grand thème de la vocation. Cet appel par lequel Dieu nous invite à faire quelque chose de notre condition initiale, de nos talents, de nos capacités propres. Oui, l'humanité est une foule bigarrée, cosmopolite, dont nous sommes ici ce matin encore un bien beau visage, non seulement du fait de notre couleur de peau, de notre taille, de nos capacités physiques, mais aussi de nos intérêts, de nos talents, de nos fonctions, de tout ce que nous sommes. Certainement, Dieu n'attend pas que nous ne soyons qu'un grand cerveau bien fait au prétexte que nous serions protestants. Le protestantisme ne devrait jamais être résumé à ce seul organe d'un cerveau bien fichu. Il espère que nous ayons aussi des oreilles et des yeux ouverts sur le monde. Il espère que nous ayons aussi des mains tendues vers notre prochain. Il nous espère avec des pieds et des jambes disponibles pour aller à la rencontre des autres. Dieu nous espère avec un cœur gros comme ça, pour être assez endurant et ne pas faiblir devant la tâche qu'il nous indique. Dieu nous espère avec des nerfs assez vifs pour être suffisamment sensibles aux frémissements du monde. Nous ne sommes pas un seul et même organe. Nous sommes extrêmement variés, et c'est heureux. Si tout le monde était pareil, fait sur le même modèle, si nous étions tous conformes les uns aux autres, ce ne serait pas seulement triste à mourir, ce serait un appauvrissement terrible de l'univers. Ce serait la fin des interactions créatives, la fin de ces écarts différentiels au creux desquels l'énergie de la vie est fécondée. C'est parce qu'il y a de la différence. C'est parce qu'il y a de l'écart, c'est parce qu'il y a de la place, de l'espace que nous pouvons créer, que nous pouvons faire des choses nouvelles. S'il n'y a pas de place pour bouger, si nous sommes tous conformes les uns aux autres, si nous ne sommes qu'un seul membre, où est le corps, se demande Paul. Où est la vie? La pluralité des membres, notre pluralité, nos différences. Toutes ces différences qui font le monde ne sont pas une déperdition de l'unité que Dieu aurait en tête. C'est un enrichissement de notre qualité de vie. La pluralité des membres permet à l'ensemble du corps d'avoir accès à toutes les dimensions de la vie, à toutes les facettes de l'existence. Toutes ces différences, cette pluralité permet que personne ne se prive de quoi que ce soit, mais que tout soit disponible. Cette vision de l'homme permet alors de fonder non plus seulement une morale qui évite les dégâts, mais de fonder une éthique par laquelle chacun contribue à augmenter le bonheur de l'autre, et donc le bonheur de l'ensemble. Non plus seulement une morale qui stabilise, non plus seulement une morale qui évite que cela se délite, que cela se dégrade, non plus seulement une morale qui maintient le tout, mais une éthique qui permet la croissance, qui permet l'épanouissement, qui permet de grandir, qui permet à nos enfants de devenir ce qu'ils peuvent être. Et cela, c'est la pluralité qui le permet. C'est la pluralité qui l'autorise. C'est parce que nous assumons cette pluralité d'ailleurs, cette pluralité voulue par Dieu, que nous sommes effectivement le corps du Christ. Amen.